Bonsoir à tous. Donc je commence avec des remerciements d'être là et avec des excuses donc pour la prochaine séance, donc puisque je ne pourrai pas l'assurer. Pour ceux qui seront intéressés et encore là à la fin de ces deux heures, ce sera pour dans 15 jours pour la suite de ce cycle. Je complète la petite présentation en cédant à un jeu de mots facile. Hein. Donc moi, je viens de l'université impopulaire et même de la partie la moins populaire de l'université impopulaire, puisque je suis maître de conférence à la faculté de sciences économiques de Lyon. Je vais vous parler de ma profession, des économistes. Et à travers eux, d'abord de leur production et de ce qu'ils disent sur la réalité qu'ils sont censés étudier, la réalité économique. Donc j'ai intitulé ce cycle de trois séances « Les économistes, une profession en crise dans un monde en crise » avec un point d'interrogation. Il va y en avoir plusieurs et ce n'est pas vraiment l'intention d'apporter de réponses définitives, mais plutôt des éléments vous laissant juge de savoir quel est l'état de cette profession et d'autres questions liées, à savoir si on peut parler d'une crise chez les économistes et si oui, quelles sont les relations entre cette crise et la crise économique que nous vivons actuellement. Il s'agira de savoir si les économistes sont d'une manière ou d'une autre en partie responsables de cette crise. Et d'abord et avant tout, on va se demander pourquoi ils n'ont rien vu venir. Pourquoi ils n'ont rien vu venir, c'est justement la question qui a été posée très rapidement au déclenchement de la crise qu'on fait remonter en général à la fin de l'année 2008. En novembre 2008, cette question a été posée par la reine d'Angleterre devant des économistes à l'occasion d'une visite de la London School of Economics, qui est l'une des universités, l'un des lieux d'enseignement et de recherche en économie les plus prestigieux au monde. Comment la plupart des économistes, en fait, ont pu passer à côté de quelque chose d'aussi gros que ce qui était nommé à l'époque la crise des subprimes, si ça a été aussi grave, comment ça a pu échapper à tout le monde? Bien, cette question, elle n'est pas restée sans réponse, puisque en juin 2009, un groupe d'une trentaine d'économistes, alors dans un sens très large, là, alors à la fois des universitaires, des financiers, des journalistes, ce groupe s'est réuni pour réfléchir à la question posée par la reine, en débattre et lui apporter une réponse officielle qui a pris la forme d'une courte lettre que vous pouvez trouver sur Internet. Une courte lettre de trois pages, sachant que c'est une personne occupée, donc ils ont essayé d'être concis. Et pour l'être encore plus, ils ont proposé un résumé à la fin de cette lettre, que je vous livre en français. Donc, leur réponse en deux mots. Pour eux, chacun, à son niveau, a fait son travail correctement, que ce soit les économistes qui devaient analyser, les opérateurs sur les marchés financiers, les politiques. Chacun a fait son travail correctement. Et la raison principale de cette crise ne tient pas, de ce problème de prévision, ne doit pas être imputé à tel ou tel individu ou à telle profession, mais relève d'un échec de l'imagination collective. Donc vous avez eu le temps de lire cette citation, de nombreuses personnes brillantes, à la fois en Angleterre et ailleurs. Échec de l'imagination collective pour comprendre les risques du système pris dans son ensemble. On a là, dans cette réponse apportée, deux fois quelque chose avec lequel les économistes sont généralement pas très à l'aise, à savoir des collectifs, l'imagination collective, et puis le système pris dans son ensemble. Alors, au-delà de ce résumé de réponse, ça vaut le coup quand même d'aller regarder un peu d'entrer dans le détail de leur réponse. Je vous livre cinq points en fait de cette lettre, à la fois d'ailleurs en apportant une défense des économistes pour commencer, puisqu'ils insistent pour dire qu'il ne s'agit pas d'un échec complet. En fait, plusieurs économistes, et pas simplement des économistes aux marges de la discipline, avaient bien détecté qu'il y avait des problèmes. La crise avait été prévue, mais pas le moment précis où elle allait se déclencher. Et elle n'avait pas été non plus prévue non plus qu'elle serait d'une telle ampleur. Bon, mais ils n'avaient pas non plus forcément tout faux. Alors, sur le premier point, sur le fait qu'on ne peut pas prévoir avec exactitude le moment de déclenchement d'une crise, c'est quelque chose, c'est une limite à ce mode de production des connaissances qui effectivement ne peut pas leur être reproché. C'est comme si on reprochait à un médecin finalement de ne pas guérir à 100% de ses patients. On n'a pas une science exacte et on ne peut pas prévoir avec exactitude le moment de déclenchement d'une crise. Sur l'ampleur, il y a plus à dire. C'est là sans doute qu'il y a eu plusieurs erreurs de diagnostic. Le deuxième point qu'ils ont mis en avant, c'est donc le manque de vision d'ensemble, puisque différents économistes spécialisés dans différents sous-domaines de l'économie, qui s'intéressaient à différents sous-compartiments de l'économie, au marché immobilier ou à telle partie des marchés financiers, plusieurs économistes avaient détecté des signaux alarmants, mais aucun n'avait pu en déduire la vision d'ensemble, la catastrophe générale à laquelle on est arrivé. Surtout, et c'est mon troisième point que j'ai relevé dans cette lettre, la plupart ont fait confiance aux banques et aux nouvelles techniques de gestion du risque. Nouvelle technique de gestion du risque par rapport aux emprunts. Tout emprunt contient une dimension de pari risqué, surtout quand il s'agit de financer de financer un investissement dans un projet d'entreprise. Vous n'êtes pas sûr que ce projet va réussir ou va être un échec. Il y a toujours une part de risque. Et ici, ce qui s'est passé au cours des années qui ont précédé la crise, c'est que la plupart des analystes se sont un peu baignés dans l'illusion qu'on avait réussi, à force d'innovation financière, à faire entièrement disparaître le risque. C'est une croyance comme ça, un peu magique. Le risque aurait disparu de l'économie grâce à de nouveaux produits financiers, plus sophistiqués, etc. Alors, ça doit être quelque chose de récurrent dans les crises. Il y a une croyance comme ça que quelque chose qui avant était une donnée de base de l'économie, à savoir que là dans tout emprunt il y a forcément une part de risque, eh bien on a réussi à dépasser ça et l'économie obéit maintenant à de nouvelles lois. Alors l'exemple précédent dans les années 2000, c'était avec Internet. On disait avec Internet l'économie ne répond plus du tout aux mêmes lois. Il y a maintenant, on peut avoir des entreprises qui aujourd'hui ne rapportent rien du tout, sont extrêmement déficitaires, qui à l'avenir vont pouvoir rattraper tout ça. Enfin, il y avait l'idée que les lois avaient complètement changé. Ici aussi, donc, un élément de base, le risque aurait disparu. Avant-dernier point, ici, une autre citation du rapport que je vous livre. Il y avait un large consensus pour dire qu'il valait mieux faire face aux conséquences des bulles sur les marchés financiers et immobiliers plutôt que d'essayer de les rectifier par avance. Un large consensus donc pour dire que on allait laisser aller l'économie aller dans le mur plutôt que s'en occuper avant et qu'après on savait de toute façon gérer les crises. Et ça, cette croyance, elle était en partie due à la gestion justement de la crise précédente, de l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000, au début des années 2000, qui avait été particulièrement bien géré, jugeait-on, par les autorités, en particulier les autorités monétaires, en particulier les autorités monétaires américaines. Et donc, on se disait de toute façon, après coup, on pourra toujours rattraper les choses. Sauf que là, justement, on revient à ce problème d'ampleur de crise qui n'avait pas été prévu. On n'avait pas vu que les choses prennent une telle ampleur. Ça aurait pu bien plus mal finir. Et puis tout ça, le dernier point qui va me faire sortir de cette lettre et aller vers une deuxième forme de mise en cause des économistes, moins sur du point de vue des connaissances. C'est là-dessus, c'est sur ce plan qu'ont répondu ici nos premiers économistes, mais plus d'un point de vue politique ou du point de vue des intérêts. Le dernier point, c'est que tout ça s'est fait sur un fond d'optimisme généralisé, car en fait, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, bénéficiait de la bulle immobilière, de la bulle financière, tant qu'elle n'avait pas éclaté. Donc tout le monde, finalement, avait un peu intérêt aussi à avoir... ne pas voir ce qui allait arriver, profitant actuellement de la situation. Alors, justement, cette question des intérêts liés à l'analyse qu'on peut avoir, je l'aborde dans une deuxième série de critiques qu'ont connues les économistes, qui portent sur, tout simplement sur les collusions entre intérêts financiers et intérêts des économistes ou de certains économistes. Cette critique, elle a été portée très tôt en France par un économiste qui s'appelle Jean Gadret. Vous avez une copie de son blog et plus précisément du post que vous pouvez trouver sur Internet où, justement, il prend deux exemples emblématiques, deux économistes, qu'il faut bien citer du coup. Ce sont deux membres du Conseil d'analyse économique qui sont ici, Christian de Boissieu et Jean-Hervé Lorenzi. Le Conseil d'analyse économique, une très brève présentation, c'est donc un lieu où sont réunis une trentaine d'économistes qui a pour mission d'éclairer les choix du gouvernement en matière économique. C'est placé auprès du Premier ministre. Ça a été créé, c'est une institution qui remonte à la majorité plurielle. Ça a été créé au départ par Lionel Jospin. Et c'est toujours en place, même si ça a connu plusieurs réformes. Donc, c'était à l'époque de ce poste dirigé par Christian de Boissieu, et Jean-Hervé Lorenzi est aussi un économiste important, également président d'un autre groupe qui donne souvent son avis dans les médias, à savoir le Cercle des économistes. Alors, qu'a fait Jean Gadret à partir de ces deux personnes? Eh bien, il s'est contenté de reconstituer leur CV à partir de recherches rapides sur Internet. Et c'est ce que vous avez donc dans ce poste. Et là, le résultat interpelle, puisqu'on les découvre liés à plusieurs établissements financiers, alors que ce soit en tant que membre de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, ou de leur comité d'audit, ou encore d'autres choses, ils auraient été missionnés de ci, de là. Et ça amène, dans ces conditions, on peut au moins s'interroger sur l'influence que peuvent avoir ces connexions sur la manière dont ces économistes envisagent les avantages et les inconvénients des marchés financiers et plus généralement analysent l'économie et conseillent au sujet de l'économie les différents gouvernements depuis Lionel Jospin. Alors, le but là n'est pas de faire le procès de ces deux personnes. Je précise d'ailleurs qu'elles se sont défendues, elles se sont expliquées et Jean Gadret, donc, qui avait soulevé ce problème, a également mis sur son blog les réponses de ces deux économistes. Alors, pour eux, bien évidemment, le fait de multiplier ces casquettes ne remet pas du tout en cause leur indépendance d'esprit, pour avoir prendre le problème à l'envers même, et dire que plus on en a, plus on va être indépendant au moins de l'un d'eux. Seulement, après, s'ils sont des intérêts liés, ça peut poser problème. On peut aussi défendre cette participation dans ces grands groupes. Donc ça va être un atout, puisqu'il s'agit de bien connaître ces entreprises par rapport, alors là, on peut contraster avec la critique de base aussi faite à des économistes universitaires qui n'auraient jamais mis les pieds dans une entreprise, qui ne connaissent pas la vraie réalité de l'économie. Et bien cela, au moins, ne prête pas le flanc à cette critique. Bon, mais je sors de ces deux cas personnels. Au-delà de cela, et peut-être que ceux-là, effectivement, n'ont absolument rien à se reprocher, mais les cas sont assez fréquents pour que la question puisse sembler pertinente à la communauté des économistes dans leur ensemble, et que ça ait donné lieu, à la fois en France, mais d'abord aux États-Unis, à un mouvement de rédaction, de chartes, de bonnes pratiques et donc de nouvelles règles pour réguler cette profession. Alors des règles non forcément contraignantes, mais un ensemble, un code de déontologie qu'a appliqué la profession ou les professions nationales. J'y reviendrai. Toujours dans ce deuxième axe, donc pas sur les connaissances, mais sur les intérêts sous-jacents, éventuels, postulés, vous avez quelque chose de plus connu, que j'espère vous avez tous vu, sinon vous avez vu, j'en profite pour faire un peu de pub, hop, le blog de Jean Gadret, si vous voulez un peu d'informations sur l'économie. Ce film, ce documentaire, Inside Job, donc sur les conflits d'intérêts, ce qui non seulement explique de manière très pédagogique les mécanismes financiers qui ont mené à la crise, mais qui également met en accusation de nombreux experts, alors cette fois dans le contexte américain ou bien des experts internationaux. En particulier, pour mémoire, pour ceux qui l'ont vu et puis pour donner plus envie et puis aussi évoquer un cas, vous avez cet universitaire donc américain, l'Université de Columbia, Frédéric Mishkin, auteur de manuel de référence sur le sujet, qui en fait a démissionné du rôle de conseiller de la Réserve fédérale américaine, donc l'équivalent de la Banque centrale, durant l'été 2008, donc juste avant que les choses se gâtent, avant que les choses explosent. Et il est interrogé, comme beaucoup d'économistes dans ce documentaire, et puis le réalisateur, évidemment, le titille sur cette démission soudaine et au bon moment. Et là, il est assez embarrassé, la situation, enfin, ça aussi entre le cocasse et le pitoyable, puisque le seul argument qu'il arrive à avancer, c'est qu'il fallait de toute urgence que son grand manuel, qui en est à une 9e édition, soit revu. Il fallait absolument qu'il boucle. Il est conseiller de la Banque centrale américaine. Il a ses grandes affaires en main, de certaines manières. Et puis, il fallait absolument qu'il boucle une nouvelle édition de son manuel, bon, qui semblait pas très crédible comme explication. Alors, ces deux précédents, que ce soit le problème soulevé par Jean Gadret ou alors la mise en film dans Inside Job, ils ont inspiré une troisième démarche. Ils ont inspiré le journaliste de Mediapart, Laurent Mauduit, qui, dans un ouvrage, alors ça c'est plus récent encore, ouvrage paru en 2012, a complété le travail de Jean Gadret sur le Conseil d'analyse économique en s'intéressant aux activités de ses autres membres. Bon, et alors là, j'ai quelque chose de plus satisfaisant. Alors évidemment, il a refait pour certains exactement la même chose, à mettre, à rassembler des éléments de leur CV et à montrer du coup qu'il y avait potentiellement un problème pour certains. Mais également, je peux aussi soulever un point positif, pour la moitié d'entre eux, en revanche, une bonne moitié de ces économistes, n'est margée nulle part. Et parmi eux, d'ailleurs, celle qui est aujourd'hui, suite à la réorganisation du Conseil d'analyse économique, suite à l'élection de François Hollande, celle qui dirige ce Conseil d'analyse économique, à savoir Agnès Benassi-Kerré, elle n'émarge nulle part, ou du moins n'émarge nulle part à l'époque de l'enquête de Laurent Mauduit. Bon, au-delà de l'examen de ces liaisons dangereuses par Laurent Mauduit, il s'intéresse également dans cet ouvrage aux évolutions du système universitaire. Donc ça, ce sont des éléments que je réserve pour la séance 3 devenue 2-3, et à la place des économistes dans les médias. Ça, il est bien placé en tant que journaliste économique pour en parler. Et alors justement, ces mises en cause, on peut se demander, est-ce qu'elles ont réduit l'audience des économistes? Alors, bon, vous connaissez la réponse en suivant l'actualité, pas du tout. Rien que dans au cours de la dernière campagne présidentielle, les économistes ont été sans doute plus présents que jamais. Alors, c'est voilà, un paradoxe. Cette crise a à la fois entamé leur crédibilité, mais elle les a également mis encore un peu plus au centre du jeu, parce qu'elle a rendu les questions économiques encore plus importantes. C'est un phénomène d'ailleurs qui concerne pas seulement les chercheurs mais également les journalistes économiques. Donc là, je vous ai pris l'exemple le plus visible de cela avec François Langlais dans l'émission politique qui a sans doute le mieux marché durant cette dernière campagne, et pas pour de mauvaises raisons, mais donc était attendu le passage de le journaliste économique qui passait les politiques au gré de s'expertise. Et puis en dessous, donc la grande question du chiffrage des programmes. Je vais mettre la flèche là, ce sera plus simple pour la suite. Qui était le gage de crédibilité ultime des candidats. Et puis, dans la sphère médiatique également, vous avez dû apercevoir qu'on entendait de plus en plus d'autres voix qui parvenaient à se frayer un chemin. Alors, ce qui laisse voir également différentes manières de concevoir l'économie, ce qui sera plus directement abordé dans la séance 2 devenue 2-3. Donc là, vous avez Frédéric Lordon, Paul Jorion, qui n'est pas économiste, mais qui en même temps a une bonne connaissance du fonctionnement des marchés financiers, et du coup pouvait apporter une contre-expertise aux économistes. Et vous avez également un ensemble d'ouvrages plus ou moins à la marge, certains au départ venant de personnes tout à fait légitimes dans le champ de la science économique puisque prix Nobel, mais qui aujourd'hui développent plus des essais, des commentaires de l'actualité économique que des travaux académiques. Et puis des choses plus à la marge encore. Bon, alors j'ai fait exprès, mais j'ai pas tout à fait le choix non plus. Je vous ai mis deux donc voix différentes qui interviennent donc sur le plateau de France Culture. Donc pour dire aussi que si on les a plus entendus, ceux-là, ils étaient quand même cantonnés à certains endroits de l'espace médiatique. C'était pas pour le 20h de TF1. Bien, donc une introduction un peu longue pour en venir donc à l'annonce d'un plan. Bon, donc trois questions liées, trois questions que je proposais de traiter à la suite. D'abord, revenir sur la question de la responsabilité des économistes dans la crise. Et ça, je vais y revenir essentiellement à partir de faits récents, pour aussi s'amuser à faire l'histoire de leurs erreurs, et plusieurs l'ont fait. Là, je vais prendre deux faits marquants les plus potentiellement déterminants dans la situation actuelle. Je souhaitais ensuite faire une incursion du côté de la théorie économique pour vous présenter des clivages, voir si des défauts d'analyse viendraient directement de l'université où sont développées les parties les plus théoriques de la représentation économique du monde. Et puis, c'est en ça que c'est distinct, je passe des produits aux producteurs avec l'idée qu'il est intéressant d'appliquer une grille de lecture de sociologie ou socio-économie des professions à la profession d'économiste elle-même. Donc il s'agit donc de présenter des éléments concernant cette communauté pour voir si elle-même est en crise aujourd'hui. Et en fait, sinon en crise, je vous montrerai que dans le cas français, il se passe des choses actuellement qui sont directement reliées à cette crise de l'économie. Voilà, introduction un peu longue. J'en viens au vif du sujet, mais pour prendre à peu près autant de temps là-dessus, avec cette première question. Quelle responsabilité des économistes dans la crise? Alors là, je vais le faire en trois points. Un premier point où je vais revenir justement sur la situation économique actuelle. Donc c'est là où je me prête le plus au jeu finalement de l'interrogation du mot crise lui-même de ces séances. De quelle crise parle-t-on en fait ici? Est-ce que on est en crise depuis 2008 Ou alors est-ce que celle de 2008 est derrière nous? En fait, c'est fini ça, cette histoire de subprimes, etc. Maintenant, c'est le devenir de l'euro qui est en jeu, c'est la crise de l'Europe, de la zone euro. Ou alors non, ça, en fait, ça y est, on a sauvé l'euro et on a encore autre chose maintenant. Maintenant, on a eu de mauvais chiffres du chômage et puis c'est le problème de la France aujourd'hui, c'est notre crise, une crise qui ne concerne plus ce qui se décide au niveau de l'euro. Est-ce qu'il s'agit, on parle aussi souvent de crise de l'État-providence, donc là c'est à nouveau renvoyer la balle à la dimension nationale de la crise éventuellement. Est-ce que c'est le modèle français en fait qui ne marche plus, qui doit suivre le modèle allemand ou un autre, le japonais, le suédois, ou alors son montant en généralité, une crise du capitalisme, et de quel type de capitalisme? Alors, je proposais une réponse assez schématique à cette question, avec un schéma, un graphique, ici. Alors, j'emprunte les quelques graphiques qui viennent, et je ne vais pas vous assommer avec ça, ils sont, je crois, assez simples. Je les emprunte à l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est... l'un des principaux organismes qui fait des prévisions, qui n'est pas le plus influent, on peut le dire comme ça. Disons que le plus important, et on va en parler tout à l'heure, et pour ça c'est bien de faire le contraste entre les deux, il ne se situe pas au niveau français évidemment, il se situe au niveau international, et c'est celui du Fonds monétaire international. C'est là où il y a des choses sérieuses qui sont dites, ou du moins c'est là où ce qu'on dit est un peu écouté. Au niveau de l'OCDE également. Après, dans la hiérarchie, on pourrait placer la Commission européenne, la direction du Trésor au niveau de Bercy, mais déjà là, il y a plus de doutes quant à la fiabilité de leurs prévisions, puisqu'elles sont toujours faites avec des arrière-pensées politiques. Et puis, vous avez l'OFCE, donc, qui est cet organisme indépendant, rattaché à l'école de Sciences Po de Paris, qui produit des analyses de qualité, donc sur lesquelles je m'appuie et à partir desquelles je me propose le diagnostic. Donc, la crise, une première manière de la voir ici, c'est à partir donc des PIB par tête. Donc là, vous avez de la zone euro, des États-Unis, c'est beaucoup plus important, d'où les chiffres dans l'échelle de droite, mais les chiffres ne sont pas très importants finalement, c'est la forme de cette courbe qui compte. Vous voyez bien, si on remonte depuis les années 2000, ça monte plus ou moins lentement, mais ça monte tranquillement. Et puis ça s'effondre, là, avec cette crise, quelque chose donc d'inédit sur cette période, qui vous montre bien l'ampleur du phénomène, qui vous fait prendre conscience de pourquoi finalement on a parlé de catastrophe ici. Et puis... suite à 2008, c'est reparti, vous voyez, et ça semble repartir, comme avant, tranquillement. Donc, certes, on a eu cet accident, mais maintenant, finalement, tout semble aller mieux. Au niveau de l'Europe, si on zoome sur l'Europe, vous avez en gros les mêmes profils, même si vous voyez que la manière dont ça se redresse est un peu moins convaincante, sauf pour l'Allemagne. Que dans le graphique précédent. Alors, en taux de croissance pour la France, cela se traduit par les chiffres suivants qui sont également parlants. En 2007, donc avant la crise, il y avait une croissance de 2,3% l'an. En 2008, la crise donc a commencé fin 2008, moins 0,1%. En 2009, moins 3,1%, donc c'est là où vraiment on plonge. Et puis, c'est reparti, doucement, mais c'est reparti. En 2010, 1,6%. En 2011, 1,7%. Et puis, bizarrement, en 2012, 0. Donc en fait, on a comme ça eu un trou, c'est reparti, et puis, on est retombé. Donc en fait, c'est les deux... C'est ces deux moments qu'il faudrait comprendre comme à la fois liés, mais comme ayant aussi des causes propres. Alors, le dernier ou l'avant-dernier Non, le dernier graphique, et puis il y aura un petit tableau ensuite, que je vous propose, c'est peut-être celui qui dessine le mieux la crise, bon, du point de vue de l'économiste peut-être, mais là vous avez un joli dessin de la crise avec cette... donc là, on est au niveau de la croissance mondiale. Et vous voyez là aussi un phénomène inédit, donc un chiffre de croissance négatif, destruction de richesses, durant l'année 2009. Et puis, donc là, ça a agrégé la France et, dans ce rectangle, mais quelque chose qui concerne directement la France, uniquement la France, c'est la demande adressée à la France. Vous voyez que forcément, elle est liée à cette croissance mondiale. Plus il y a de richesses créées au niveau mondial, plus il y aura de personnes qui voudront acheter des produits et français et autres, mais du coup, mécaniquement, les produits français augmentent. Et inversement, vous avez cette demande qui s'effondre en 2009, qui remonte avec la croissance mondiale en 2010, et qui redescend et vient carrément s'écraser en même temps que la croissance mondiale diminue. Ça s'explique principalement par quoi? Le fait que ça baisse autant, ça s'explique principalement par le fait que non seulement la croissance mondiale a diminué, mais en Europe, cette aggravation est plus importante encore. Et évidemment, les premiers partenaires de la France pour le commerce extérieur, ce sont les autres pays européens. Donc là, c'est là où, si ça va mal chez les partenaires européens, on a des conséquences sur la croissance française. Donc voilà, il s'agirait d'expliquer les deux, à la fois le trou de 2009, la crise identifiée fin 2008, dite crise des subprimes, et puis les mauvais chiffres actuels. Alors, je vous propose d'abord un retour rapide sur la crise des subprimes, pour donner enfin le point clé. Qui a à l'origine de cette crise, c'est une multiplication de prêts risqués. On va revenir à cette idée qu'on pense avoir fait disparaître le risque. Une multiplication de prêts risqués dont les banques se débarrassaient aussitôt contractés en les associant à des prêts moins risqués et en revendant le tout sur les marchés financiers sous la forme de titres. C'est le fameux phénomène de titrisation. Et comme ça, il se débarrassait de ce risque et il le transformait au moins en apparence. Aux États-Unis, cette opération, elle a permis de développer l'endettement des ménages bien au-delà du raisonnable, c'est-à-dire en gros au-delà de ce qu'ils pouvaient rembourser. Ça a permis de développer cet endettement bien au-delà du raisonnable, mais en un certain sens aussi, ça a permis de le développer de manière tout à fait rationnelle. Alors pour comprendre cela, il faut replacer en fait ces innovations financières dans la logique d'ensemble du système économique telle qu'elle s'est mise en place depuis les années 80. Alors, je vais faire aussi ça très vite. Avant en fait ce qu'on a depuis les années 80, vous aviez la période toujours présentée de manière très positive, dite des 30 glorieuses, le Fordisme, et là, alors voilà, je vous donne une seule caractéristique pour le résumer, avec en toile de fond eh bien, la logique de Ford qui prête son nom à cette période. Cette logique, c'est faire de ses employés ses premiers clients, donc les payer correctement. Ce système est entré en crise dans les années 70, et son successeur s'est longtemps interrogé sur s'il en avait un aujourd'hui, etc. On a longtemps pas cru qu'il y avait un successeur parce que celui-ci était caractérisé par une défaillance massive sur le marché de l'emploi, à savoir un chômage important, mais il y avait bien un système, et il y a peut-être toujours un système. À la place, avec sa cohérence, celui-ci, on peut l'appeler, je reprends là une expression de Frédéric Lordon, capitalisme de déréglementation à dominante financiarisée. Alors, pour aller plus vite, son petit nom, capitalisme financiarisé, mais l'idée de déréglementation est importante, puisqu'il est caractérisé par deux piliers, la domination non plus du rapport employeur-employé, du rapport salarial, mais la domination des effets de la déréglementation financière. Depuis la fin des années 80 en France, on a complètement libéralisé ces marchés et du coup on leur a donné un pouvoir beaucoup plus important. Premier pilier, le plus connu. Deuxième pilier, très connu également, mais qu'on a peut-être minoré dans les analyses récentes, c'est la mondialisation, conçue comme une déréglementation générale du plus grand nombre de marchés possibles sur la base internationale la plus élargie possible. Et en fait, vous avez une forte cohérence entre cette configuration du capitalisme et le développement de l'endettement. Parce que si dans le système précédent, vous aviez un ensemble de règles qui garantissaient un pouvoir d'achat important pour les salariés, et donc par là, en garantissant un pouvoir d'achat important pour les salariés, des débouchés conséquents pour les entreprises, dans ce système-là, vous avez une concurrence accrue entre travailleurs à l'international, vous avez un pouvoir de négociation moindre qui est l'envers du pouvoir donné au marché financier, vous avez donc des salaires qui ont tendance à être compressés. Et du coup, pour garantir des débouchés aux entreprises, il ne reste qu'une solution, c'est de faire de l'endettement. Donc l'endettement généralisé, permis par les produits financiers, les innovations financières qui donnaient l'impression de faire disparaître le risque, est complètement cohérent, c'est pour ça que je disais parfaitement adapté, de manière rationnelle, cette configuration du capitalisme qui aurait suivi celle du Fordisme. Alors, reposer la question de à quelle crise on a affaire aujourd'hui, eh bien, c'est demander la crise aujourd'hui appelle ou pas un changement de règles du jeu à ce niveau fondamental-là. Est-ce que on prend conscience que finalement, le rapport de force institué par la mondialisation et par les marchés financiers déréglementés, est-ce que on va le changer? Est-ce que donc le politique va changer ces règles-là ou pas? Donc ça reste. Est-ce qu'il va avoir le choix aussi à un moment? Certains diront que non, à plus ou moins court terme, mais je ne ferai pas ce genre de projection. La question reste ouverte. Ça, c'est pour mon rectangle qui s'est échappé par le bas ici. Bon, la suite de l'histoire, je vous ai dit que après ça allait mieux. Ça allait mieux. Pourquoi? Donc c'est ça que je vais expliquer maintenant et pourquoi ça s'est encore détérioré par la suite. On a eu en fait une bonne réaction des gouvernements à la crise, à la fois en Europe, aux États-Unis. Vous avez une bonne réaction et ça, elle est due en partie à l'expertise économique, à un savoir économique accumulé par rapport à d'autres crises et en toile de fond à la crise de 29 où des erreurs avaient été faites à ce moment-là, elles n'ont pas été répétées. Ne pas répéter les erreurs ici, c'était pour l'État immédiatement soutenir massivement l'économie par des dépenses. C'était laisser jouer ce qu'on appelle des stabilisateurs automatiques. Avec la baisse de l'activité, vous avez immédiatement une baisse des rentrées d'argent de l'État, une baisse des impôts. Vous avez également une augmentation des prestations sociales, avec notamment l'augmentation du chômage. Tout ça, ça va avoir un effet négatif sur les finances de l'État, mais aussi en laissant justement ces stabilisateurs automatiques jouer, c'est ce qui a permis à l'économie de repartir. Donc c'est grâce à une action pertinente de ces États, en plus du fait qu'ils sont venus au secours des banques, etc. Donc le succès de ces politiques, il est attesté donc par le rebond de croissance que vous observez ici, et en même temps, il s'est traduit par une montée de l'endettement public. Alors, pour donner aussi encore deux chiffres là, contrasté avant la crise, on était en Europe à une dette publique qui correspondait en gros à 60% du produit intérieur brut, du PIB. Aujourd'hui, enfin en 2010 du moins, on atteignait 80%. 2007, 60%. En 2010, 80%. On a fait un bond comme ça de 20%. Et ça, ce n'est pas dû à une mauvaise gestion de l'argent public, des États, etc. C'est dû à la bonne réaction qu'ont eu les gouvernements à l'époque face à la situation de crise ici pour faire repartir l'économie. Mais alors justement, cette crise, elle s'est transformée ensuite en crise dite des dettes, puisqu'il a commencé à avoir des inquiétudes alors sur la soutenabilité de ces dettes publiques. Alors, là, il y a eu un accident, si vous voulez, c'est la crise grecque début 2010. Celle-ci, en fait, est tout à fait singulière. C'est-à-dire qu'elle relève de... Bon, évidemment, la crise mondiale n'a pas arrangé les choses, mais avant ça, en fait, il y avait un problème grec, seulement il n'était pas révélé. La crise a servi de révélateur. Il y avait un problème qui était des comptes truqués en Grèce. Et comptes truqués qui n'étaient... c'était le cas qu'en Grèce. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça en France, vous n'avez pas ça en Italie, vous n'avez pas ça en Espagne, si leur situation est peut-être plus inquiétante pour les marchés financiers qu'en France. Mais j'insiste sur la singularité du cas grec, à partir duquel l'attention des opérateurs financiers s'est tournée vers les dettes comme devenant le premier problème. Et puis, avec les marchés financiers focalisés ainsi, l'agenda médiatique également retourné, et puis avec des événements qui ont renforcé cette focalisation, comme la grande question de « allons-nous conserver notre triple A ?» Alors, les États-Unis l'ont perdu en août 2011, la France aussi a fini par le perdre en novembre 2012. C'était une question d'un enjeu crucial, nous disait-on. Crucial pourquoi ? Parce que cette note attribuée à la dette de l'État devait déterminer le coût, le taux d'intérêt, comme vous, quand vous faites votre emprunt, à partir duquel l'État allait pouvoir financer justement ses dettes. Donc ça allait augmenter, encore plomber ses comptes, etc. Bon, en fin de compte, il y a eu cette perte du triple A. La note a été dégradée. Aux États-Unis comme en France, ça n'a pas eu l'effet redouté sur le coût auquel se refinançaient ces États. Donc c'est en fait cette perte du triple A aujourd'hui c'est un non-problème. Alors certains vous diront oui mais c'est temporaire, c'est parce que justement on montre les beaux signaux, mais attention de ne pas se relâcher car dès demain on peut se retrouver avec des taux d'intérêt qui doublent, etc. En attendant, on observe que ça n'a pas été si problématique que ça. Pourtant, cette focalisation, la crise grecque, cette focalisation sur les dettes, cette question de la notation des agences, a conduit donc à l'Europe à des politiques d'assainissement des finances publiques, des politiques qui ont mis un terme au redressement observé en 2010. Ça, ce sont les fameuses politiques d'austérité dans lesquelles on est aujourd'hui. Et alors, je m'appuie une dernière fois sur l'expertise de l'OFCE, qui vous donne quelque chose d'édifiant. Vous avez, alors, un long tableau, beaucoup de chiffres, mais ce qui nous intéresse, donc la croissance sont les chiffres que je vous ai donnés là pour la France, 1,6 en 2010, 1,7 en 2011, et 0 en 2012. Eh bien, celle-ci a contrasté avec ce qui se passerait en l'absence de certains chocs exogènes, en l'absence de trois choses principalement: les évolutions du pétrole, les conditions monétaires. Alors, je passe sur ces deux points, celui-ci est le principal, les politiques d'austérité. Les politiques d'austérité ont un effet négatif sur la croissance, ça tout le monde en convient, ce monde n'avait pas prévu qu'il serait aussi important, et là il est mesuré. Alors ces mesures, comme d'autres, peuvent être contestées, mais on a quelque chose ici. Sans ces trois facteurs, vous avez en 2010 une croissance de 2,3, qui est tout à fait honorable, on serait très content d'avoir ça aujourd'hui, ou les 2,6 prévus pour 2012 aujourd'hui, mais à la place de ça, on a eu zéro, et c'est imputable pour 2,1 à ces politiques d'austérité. Vous voyez, c'est l'effet principal dans ces trois années. Ces mauvais résultats en termes de croissance. Alors, la question devient pourquoi est-ce qu'on s'est infligé ça au-delà d'une pression, relativement infondée des marchés financiers, relativement infondée, donc, puisque la Grèce c'était une singularité, le triple A, ça n'avait pas eu de conséquences. Alors, c'est là où je me tourne vers l'expertise économique et des approximations et erreurs récentes qui ont pu intervenir. Donc je vais vous en présenter deux. La première, une sous-estimation de l'effet des politiques d'austérité. Alors, là, c'est quelque chose en fait qui date d'il y a 6 mois. En fait, pour anticiper l'effet des mesures d'austérité prises par les États sur la croissance, les économistes doivent, pour faire leurs prévisions, là, elles s'appuient sur des modèles, et dans leurs modèles, ils doivent attribuer une certaine valeur à un paramètre essentiel qu'on appelle le multiplicateur. Ici, en l'occurrence, un multiplicateur fiscal. Le multiplicateur fiscal, il va vous dire quelle va être la variation de l'activité, quelle va être la variation du revenu, de la richesse créée, si on augmente d'un certain montant les impôts. Ou bien, si on baisse d'un certain montant les dépenses de l'État, quel effet ça va avoir sur la croissance. La première estimation, c'est là où j'en viens à cette institution qui fait autorité au niveau mondial, qui est le FMI, donc dirigé aujourd'hui par Christine Lagarde, et avec comme économiste en chef un Français, Olivier Blanchard. Le FMI avait fourni une première estimation de ce multiplicateur avant la mise en œuvre des politiques d'austérité. Une estimation sur la base de laquelle ont pu être faites ces politiques d'austérité. Ce multiplicateur était estimé à 0,5 dans les économies avancées. 0,5 dans les économies avancées, ça veut dire que 1000 euros d'impôts ou 1000 euros de baisse des dépenses entraînerait une perte de croissance de 500 euros. Bon, ça, tout le monde est d'accord sur le fait que ça a des effets d'augmenter les impôts sur la croissance, comme de les diminuer, ça en a dans l'autre sens. La question qui se pose, c'est effectivement l'ampleur, là aussi, de ce phénomène. Donc, pour 1000 euros d'impôts, je vais avoir une perte de croissance de 500 euros si mon multiplicateur est de 0,5. Et partant de là, si j'ai une perte de croissance de 500 euros, les rentrées de l'argent se trouvent également amputées, il faut en tenir compte dans le calcul, et puis il faut tenir compte aussi du fait que le déficit sur lequel on se focalise, en général c'est un déficit calculé en pourcentage du PIB. Les fameux, le critère de Maastricht, c'est 3% du PIB. PIB qui est en bas dans la fraction au dénominateur est plus faible, ça va augmenter d'autant votre perception du déficit, enfin votre déficit calculé en pourcentage du PIB. Ça, c'était avant les politiques d'austérité, c'était cette estimation donc au moment où il y a eu ce tournant vers des politiques d'austérité, donc plutôt début 2010. Et une nouvelle estimation a eu lieu il y a 6 mois. Entre-temps, on a mis en place les politiques d'austérité, on a eu des résultats, on a vu que ils n'étaient pas fameux, et donc le FMI a été amené à réviser son estimation du multiplicateur, donc il prend des valeurs variables selon les pays. Pour la France, il serait plus proche de 1, donc il double, de 0,5, on passe à 1. Il peut, pour d'autres pays, hein, il est passé également de 0,5 à 1,7, des choses comme ça. Ça a conduit... Alors, je fais une mise en garde contre une erreur d'interprétation ici. Ça ne veut pas dire, j'insiste là-dessus, qu'on ne prévoyait pas des effets négatifs. Il y avait bien une perte de croissance prévue de 500 euros, mais seulement ces effets négatifs ont été sous-estimés. Alors, ils ont été sous-estimés très concrètement pour l'Espagne. Bon, j'ai pris le cas le plus édifiant. Le FMI anticipait une croissance de 1,5% en 2012. Et bon, ils avaient presque bon, le chiffre c'était presque ça, mais sauf qu'il fallait mettre un moins devant. En 2012, on a eu une récession de presque autant, quoi, de moins 1,4 en Espagne. Alors, ça peut prêter à sourire, ça peut sembler tout bête comme erreur, une erreur idiote, mais c'est pas si simple. Je fais la défense à l'instant, une erreur de prévision. En général, ce n'est pas une simple erreur de calcul. Vous avez en fait, vous devez estimer ça sur eh bien, un ensemble, à partir du passé, un ensemble d'épisodes précédents d'austérité pour savoir quelle est la bonne valeur du multiplicateur. Donc on s'était basé sur ce qui s'était passé avant la crise pour différents pays et différentes périodes. Seulement le problème, c'est que rien ne pouvait garantir que la comparaison avec la période actuelle était pertinente. C'était ça essentiellement le problème. Alors aujourd'hui, fort de l'expérience de ces deux années d'austérité passées, on a un nouveau consensus pour dire que les multiplicateurs sont plus élevés en temps de crise. Par conséquent, il faudrait mieux attendre des périodes de croissance pour réduire les déficits publics. Bon, alors j'ai intitulé cette section-là que j'achève là par une sous-estimation prévisible de l'effet des politiques d'austérité, car dans le même temps, depuis le début de ces politiques d'austérité, plusieurs économistes affirmaient que cet effet serait plus important. Mais ce n'est pas ces économistes qui ont été entendus. Le dernier point de mon exposé aujourd'hui, alors je vous ai dit que là c'était pas une bête erreur de calcul, on va arriver à une bête erreur de calcul, quelque chose de plus récent. Au sujet d'un autre seuil devenu fameux, celui de 90% du PIB que ne devrait pas dépasser la dette publique, la dette d'un État. Alors, les deux personnages principaux de cette nouvelle histoire sont ici, deux économistes de Harvard, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, celui-ci a également été économiste en chef au FMI de 2001 à 2003. Alors, ils ont... sont les auteurs d'une étude sur l'histoire des crises financières qui a eu un certain succès, et dans la foulée de cet ouvrage, ils ont publié un article en janvier 2010, au début de la crise grecque, intitulé « La croissance en temps de dette ». Et dans ce travail, c'est un travail statistique sur un ensemble de pays, un échantillon de 20 pays, réalisé entre l'après-guerre et 2009, ça les amène à affirmer qu'il y a un seuil de dette publique, le fameux seuil de 90%, au-delà duquel la croissance est très ralentie. Donc le message simple, le 90%, c'est le seuil à ne surtout pas dépasser, sinon votre croissance est fortement ralentie, voire disparaît. Ce travail a été validé par la communauté scientifique, puisqu'il a été publié dans l'une des plus prestigieuses revues en mai 2010. Et il a eu une influence certaine dans la sphère médiatique et auprès des décideurs. Il a été repris à plusieurs reprises. D'abord par ses auteurs eux-mêmes. Alors, Rogoff, lui, a été interviewé par exemple par le Nouvel Observateur en septembre 2010. Hein, là, on a pris le tournant de l'austérité, mais c'est encore frais. Le journaliste l'interroge sur la situation de la France. Voilà sa réponse. Je vous laisse le temps de lire, ou bien enfin, je le lis pour vous. La France n'était pas à l'épicentre de la crise financière, mais plutôt à la périphérie. Elle suit assez bien les recommandations du G20 qui prônent un retour sous contrôle progressif des finances publiques en plusieurs années. Cela lui paraît raisonnable. La part de l'État dans l'économie française est déjà très lourde. Plus de dépenses publiques ne serait pas efficace. Là, il s'appuie sur son résultat. Si vous creusez votre déficit alors que la place de l'État dans l'économie est modeste et que vous avez peu de dettes, l'effet sur la croissance est positif. Si vous êtes en dessous des 90%, bien en dessous même. En revanche, si les dépenses publiques pèsent déjà lourd, que la dette est élevée et votre position affaiblie sur les marchés financiers, voilà les menaces sur le AAA, etc., un déficit supplémentaire entraîne plutôt une contraction de la croissance. C'est le cas en général lorsque la dette dépasse 90% du PIB. Et là, la réaction prend bien soin de mettre en scène le drame qui est en train de se jouer, puisque, note de la rédaction, la dette de la France dépasse 83% et devrait atteindre 87,4% en 2012. Donc, on est tout près du précipice. Là, il faut tout de suite arrêter ça. influence de ce rapport, alors elle est multiple, hein, donc là c'est bon, ben, simple, elle a simplement influencé les lecteurs du Nouvel Obs, ou pas, ils ont un esprit critique, ils l'ont laissé de côté. Alors là, quand même, une influence plus nette, ceci est un extrait du rapport, d'un rapport de l'Assemblée nationale, de la Commission des finances, sur le projet de loi de finances de 2011. Alors là, on ne va pas le lire en entier, mais vous voyez que nos deux auteurs apparaissent encore ici, et le fameux seuil des 90% aussi, voilà, en étant le point à ne pas dépasser. Autre influence encore, aux États-Unis, le républicain Paul Ryan, qui utilise cette étude pour justifier son projet de budget, ou alors, au niveau européen, le commissaire aux affaires économiques, Olli Rehn, qui a également mentionné ce travail pour inciter les pays de la zone euro à mener des politiques d'austérité. Bon, je vous laisse aller voir sur le site des deux auteurs, ils ont également relevé l'ensemble des articles de presse qui citent leurs articles, et alors pas qu'en France du coup, et la liste est assez longue. Donc quelque chose qui semble avoir eu quand même, sinon de l'influence, du moins un écho important. Alors le problème, c'est que il y avait une erreur dans leur calcul, et une erreur pour le coup toute bête, qu'un étudiant d'une autre université américaine a détecté. Alors en tentant de refaire ses calculs, il n'a pas trouvé les mêmes résultats. Il a demandé aux auteurs, il leur a écrit, c'était dans le cadre d'un simple exercice pour lui, pour valider son année, hein, essayer de refaire, de retrouver des grands résultats, des grands économistes, etc. Et donc lui, il s'intéressait au problème de la dette, et puis voilà, il a essayé de faire ça. Donc il ne trouvait pas, il a écrit aux auteurs en leur demandant les données sur lesquelles ils avaient travaillé, et ça, il faut le reconnaître, ça, c'est très sympa, ils ont carrément envoyé en fait les fichiers sur lesquels ils ont travaillé. Et à partir des fichiers sur lesquels vous travaillez, alors bon, des fois on se dit qu'il y a toujours des logiciels très sophistiqués derrière, etc. Là, on avait une simple feuille de calcul Excel, et il y avait une simple formule du type « faites-moi la somme de tous les chiffres que j'ai avant dans la colonne », et vous voyez, on sélectionne, ça fait apparaître des languettes comme ça, et puis vous pouvez plus ou moins étendre la sélection. Et là, elle n'avait pas été étendue jusqu'au bout. Il y a une erreur de codage. Il y a des pays qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul. Et ça change tout. Ça change tout au niveau du résultat. C'est-à-dire que vous n'avez plus la discontinuité qui avait été mise en avant par les auteurs. Jusqu'à 90%, bon, c'est pas bien quand même de faire les déficits, mais ça va encore. À partir de 90%, vous n'avez plus d'économie. Plus de croissance. Cette discontinuité disparaît complètement. Alors, je propose quelques commentaires de cette affaire pour finir. D'abord, ce qu'on dit beaucoup d'économistes, d'ailleurs en défense aussi là de leur discipline, on pourrait voir ça comme étant quelque chose de positif, c'est-à-dire, eh bien, une erreur a été détectée. C'est comme ça qu'avance la science. Par essais erreurs, ou conjectures et réfutations, vous avez un résultat qui a été avancé. Et puis, bon, c'est vraiment très bête là, a priori, des fois c'est un peu plus compliqué, des fois l'erreur est est moins évidente. Mais voilà, mais en attendant, on corrige, eux ont eu l'honnêteté d'envoyer leur fichier, et puis on va pouvoir avancer sur la base d'une autre réalité, d'une autre affirmation tenue pour vraie, tant qu'elle n'aura pas été à son tour éventuellement remise en cause. Donc là, c'est pour le côté scientifique de la chose. Alors, le problème, du coup, ne serait pas du côté de la science économique, le problème résiderait plutôt sur la manière dont a été utilisé ce travail, dont il s'est diffusé. Alors, vous avez d'autres économistes qui avaient très tôt critiqué, en fait, cette étude sur un point de base, c'est que sur ces comparaisons internationales, vous avez toujours un très petit nombre de données, alors que pour avoir des résultats probants, justement, il vous faut quand même un échantillon assez conséquent. Donc les résultats sont généralement très fragiles. Donc c'était une première raison de prendre avec des pincettes ce résultat, qui valait ce qui valait. Sur cette base-là, j'ai un résultat qui est fragile, je le présente comme ça, mais voilà, le tout n'est pas d'en faire après un dogme pour les politiques des États. L'autre point, c'est de se focaliser sur un chiffre comme ça, sur un chiffre seuil, c'est plus une préoccupation pour le politique. On connaît aussi l'histoire des 3% de déficit public qui aurait été en fait une sorte de seuil avancé de manière rhétorique dans les cabinets ministériels en 81. C'est absurde de se focaliser comme ça sur un simple seuil. On a plutôt des évolutions, des tendances. On n'a pas un chiffre clé comme ça. Seulement, alors ça c'est dans les usages qui peuvent en être faits. Seulement, on a quand même des reproches à faire à nos deux économistes et derrière eux à une certaine évolution des travaux en économie. On avait ici en fait des statistiques, un joli tableau Excel, sans réelle explication, sans théorie forte derrière. Et c'est ça qui alimente cette tendance à réduire en fait les problèmes à une question de chiffres, à un seuil comme ça, à réduire le débat. Ah ben voilà, si c'est au-dessus de 90%, pas bien, en dessous, ça va encore. La multiplication de ces travaux, donc de ces travaux sans théorie, et en plus amplifiée par l'injonction qu'ont les chercheurs à produire, sachant que ça va plus vite finalement de faire quelques statistiques comme ça et d'offrir un résultat plutôt que de fournir une explication complète avec une hypothèse théorique forte qu'on va tester, etc. On a en fait avec un travail de ce type un problème tout bête qui est le sens de la causalité même. Là, on vous dit si on dépasse les 90%, on n'aura plus de croissance. On n'est même pas bien sûr en fait que c'est pas dans l'autre sens qu'il faut lire ça, c'est-à-dire une faiblesse de la croissance qui favorise l'endettement, ce qui se tient également assez bien. Pour finir, toujours sur ce point et pour finir mon exposé, je vous apporte un coup de théâtre dans cette histoire, un petit coup de théâtre, puisque bon, en réponse à cette erreur relevée, nos deux auteurs, donc Reinhardt et Rogoff, bon, ont reconnu qu'il y avait une erreur, et en même temps, on fait remarquer que eux-mêmes, d'une certaine manière, l'avaient rectifié. Bon, plutôt discrètement, ils n'ont pas dit nous avions tort, voici maintenant ce qu'on pense, mais en fait, ils ont publié d'autres résultats en 2012. Et qui correspondent en fait, en gros, aux résultats corrigés de l'étudiant, plus qu'à leur premier résultat. Bon, mais cet article, bizarrement, a rencontré moins de succès. Bon, alors, que dire sur la responsabilité des économistes? Est-ce que c'est plutôt la responsabilité des politiques par rapport aux travaux économiques, leur usage? Est-ce que finalement, ça donne l'impression un peu qu'ils piochent les travaux là où ça les arrange, et comme je vous ai dit pour les politiques d'austérité, il y en a qui disaient déjà que ça ne marcherait pas au tout début, ils existaient déjà ces économistes, à la fois du côté d'économistes aux marges de la sphère académique, à la fois du côté d'économistes nobélisés, c'est pas eux qui ont été entendus. Ici aussi, les mêmes auteurs finalement proposent deux affirmations contraires, c'est celle qui a arrangé à un moment visiblement qui a été retenue. Donc je redéplace le problème du côté du politique, je le redéplace quand même du côté de l'économiste dans aussi son contrôle de la diffusion des connaissances économiques qu'il produit. Évidemment, il ne peut pas avoir un contrôle total, ne serait-ce que pour communiquer avec ses pairs, il doit bien rendre cette info à un minimum public, mais là ça va peut-être, ça va, c'est quelque chose d'assez ténu, mais ça va peut-être être une question de posture. Je voulais comparer cet incident à une autre découverte, pseudo-découverte scientifique qui avait fait grand bruit il n'y a pas longtemps, c'est, vous l'avez tous reconnu, la découverte de neutrinos. Donc c'était, si vous vous souvenez, la remise en cause de l'idée qu'il y avait des particules qui pouvaient aller plus vite que la lumière. et qui du coup semble être une révolution scientifique qui avait fait la une de journaux, de certains journaux, puisque là aussi les journalistes sont friands de ce genre de découvertes qui semblent vraiment tout révolutionner. Seulement, si vous avez suivi cette affaire, la manière dont c'était présenté par les scientifiques, c'était avant tout, et toujours dans leurs interventions, de commencer par dire il va falloir recalculer. Il va falloir, bon, ça s'est avéré d'ailleurs hein, un problème de mesure, mais qui était, il y avait déjà les mises en garde d'emblée de la part des scientifiques. Chose que font beaucoup moins les économistes, mais bon, il faut dire qu'il n'y a pas de, même s'il y a de très larges implications dans de telles découvertes éventuelles, il n'y a pas d'application politique immédiate. Voilà, j'en reste là pour exposer aujourd'hui. J'espère vous avoir amené de quoi répondre un peu à la question.